Radio Okapi.
Oh, Okapi.
Le journal présenté par Belinda.
À la une, les importateurs des produits pétroliers déplorent ce qu'ils qualifient de désordre dans la fixation du prix de dédouanement de carburant au poste frontalier de Mahagui en Ituri. Ils l'ont fait savoir hier à Bounia, c'était au cours d'une réunion avec la FEC et des différents services étatiques. Inauguration hier à Lubumbashi du nouveau siège de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga par le président de la République, un ouvrage salué par les Louchois. Ces derniers souhaitent que ses occupants en fassent un bon usage, surtout sur le plan de sa maintenance. Et puis, l'invité de ce matin, Nicolas Berlanga, ambassadeur de l'Union européenne en RDC, en mission récemment au Nord Kivu, il dit saluer l'évolution du processus de Luanda et invite la population à garder l'espoir d'un retour rapide de la paix. À tous et à toutes, bonjour. Commençons par l'Ituri. Les importateurs des produits pétroliers déplorent ce qu'ils qualifient de désordre dans la fixation du prix de dédouanement de carburant au poste frontalier de Mahagui. Ils l'ont fait savoir mardi à Bounia au cours d'une réunion de clarification et d'harmonisation du prix du litre de carburant, rencontre qui a réuni les membres de la FEC, Fédération des entreprises du Congo, et des différents services étatiques. La direction provinciale des douanes décline sa responsabilité dans la fixation des tarifs douaniers et dénonce certains cas de fraude par les commerçants. Ézéchiel Mouzalia.
Plus de 200 camions-citernes transportant des produits pétroliers sont bloqués depuis plus d'un mois au poste frontalier de Mahagui Centre à 165 km de la ville de Bounia. Selon les opérateurs économiques, cette situation impacte le prix du litre du carburant qui se vend à 3500 voire 3800 francs congolais à Bounia. Au cours de cette rencontre, ils fustigent la procédure des déclarations des marchandises, surtout du carburant. L'un d'eux exprime son indignation.
La déclaration du véhicule doit avoir un équilibre avec le bénéfice. Tu vas te rendre compte que sur un véhicule, tu bénéficies de 300 dollars. Voilà ce qui nous paraît difficile. Pour les véhicules qui stationnent par jour, nous payons 200 dollars. Multiplié par 30 jours, voilà ce qui crée des problèmes.
Le directeur provincial des douanes et accises indique que son service ne fixe jamais le prix des produits pétroliers. Il appelle les opérateurs économiques à se conformer à la loi qui fixe le prix par zone au niveau national. Félix Kitenge.
Je n'interviens même pas dans la structure des prix. Tout ce que nous faisons, c'est d'appliquer la structure qui est communiquée.
Le directeur provincial s'engage à démanteler tous les réseaux mafieux qui seraient à l'origine de la fraude en collaboration avec le gouvernement provincial. Bounia, Ézéchiel Mouzalia, Radio Okapi.
Entre-temps, au Nord Kivu, les activités sont restées paralysées pour le deuxième jour consécutif hier à Kasindi-Lubiria, une commune rurale du territoire de Beni, frontalière de l'Ouganda et principale porte d'entrée des marchandises pour les régions de Beni, Butembo et Lubero. La population a répondu à l'appel de la société civile locale qui a décrété plusieurs journées ville morte pour dénoncer l'insécurité croissante et exiger la libération du commandant de la police locale détenu depuis 5 jours à l'auditorat militaire de garnison de Beni. Récit des faits avec Martial Papi Mukeba.
Depuis lundi, boutiques, magasins, petits commerces et écoles restent fermés à Kasindi-Lubiria. Toutefois, les activités d'importation et d'exportation des marchandises se poursuivent à cette frontière, principale voie d'entrée des produits pour les régions de Beni, Butembo et Lubero. Les grévistes dénoncent avant tout la montée de l'insécurité à Kasindi-Lubiria. Dans la nuit de dimanche à lundi, des bandits armés ont cambriolé au moins 10 maisons sans qu'il y ait la moindre intervention des forces de l'ordre, selon la société civile locale. Il réclame également la libération du commandant de la police locale, arrêté et détenu depuis vendredi à l'auditorat militaire des garnisons de Beni. Cet officier est accusé du meurtre présumé des bandits armés abattus alors qu'il tentait de s'évader du cachot de la police de Kasindi-Lubiria le 9 novembre dernier. Cependant, la société civile locale s'oppose à cette décision, estimant qu'elle s'apparente à un sabotage des actions de cet officier qui, selon elle, avait récemment démantelé plusieurs bandes de bandits armés opérant à Kasindi-Lubiria. Beni, Martial Papi Mukeba, Radio Okapi.
Je vous le disais en titre, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a inauguré hier à Lubumbashi le nouveau siège de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga. Une cérémonie qui s'est déroulée en présence de plusieurs personnalités de Lubumbashi et d'ailleurs un ouvrage salué par les Louchois. Ces derniers souhaitent que ses occupants en fassent un bon usage, surtout sur le plan de sa maintenance. Pour Michel Kaboué, président de cet organe délibérant, ces meilleures conditions doivent être couronnées par un travail de qualité de tous les députés provinciaux. Jean Gandouf nous présente ici sommairement ce nouveau siège de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga.
Cet imposant ouvrage est situé sur l'avenue du 30 juin dans la commune de Lubumbashi. Il est érigé juste derrière le bâtiment du 30 juin qui a servi de siège à cet organe délibérant depuis toutes ces années. Ce bâtiment a une superficie de 8000 m² et est construit sur un terrain de 30000 m². Il a trois niveaux plus les rez-de-chaussée et comprend 37 bureaux administratifs, 48 bureaux pour les 48 députés et leurs assistants. Il compte aussi une salle de plénière qui a une capacité de 500 places. Les députés n'auront pas à se déplacer au moment de leur prise de parole. Chacun a un micro placé juste devant son siège. Pour des travaux en commission et autres, des salles de réunion sont aussi prévues. Il y a également une cafétéria, deux terrasses, un dispensaire. La sécurité du bâtiment est assurée 24 heures sur 24 grâce au contrôle qui s'est fait à partir de la salle technique. Son parking est à même d'accueillir plus de 200 véhicules. C'est le président Félix Tshisekedi qui avait posé la première pierre le 29 juin 2019. Au départ, les travaux devaient durer 18 mois pour un coût total de 13 millions de dollars américains. Un financement propre du gouvernement provincial du Haut-Katanga. Lubumbashi, Jean Gandou, Radio Okapi.
Et puis, la RDC a aujourd'hui besoin d'un leadership plus fort, visionnaire, prêt aussi à considérer les contributions des uns et des autres. Déclaration du professeur Mvé Mbappé Zodizolele de l'université Johns Hopkins aux États-Unis d'Amérique. C'était lors de l'atelier organisé hier à Kinshasa par le Centre d'études pour l'action sociale CEPAS sur la restitution des conclusions de la recherche sur les 32 ans de règne du maréchal Mobutu. Selon le conférencier, il faut tirer des leçons du bon côté de ce régime-là, notamment rebâtir l'unité et l'éducation nationale, appliquer les acquis de la Conférence nationale souveraine, renouveler la classe politique et mettre sur pied un programme d'action et d'investissement dans les programmes spécifiques. Professeur Mvé Mbappé Zodizolele, dans ses propos recueillis par Jean-Désiré Kanyama.
Donc le Congo se retrouve aujourd'hui en pleine situation de difficultés énormes et il faudra un leadership plus fort, un leadership visionnaire qui est prêt aussi à considérer les contributions des uns des autres puisque le problème affecte les uns les autres, donc les solutions ne peuvent pas venir d'un seul coin. Il y a des leçons à tirer des années Mobutu. Tout à l'heure, j'ai évoqué à plusieurs reprises l'unité nationale. L'unité nationale, c'est un programme d'action. Si Mobutu a pu construire ou bâtir cette unité nationale, c'est puisqu'il a investi dans des programmes spécifiques. C'était pas le népotisme qui a bâti l'unité nationale. Mais il faudra y travailler. Mais de deux, il faudra un débat sur tout ce qui touche à la chose publique. Pour bien tracer son avenir, il faut connaître son passé. Il y a des leçons à tirer, j'ai mentionné quelques-unes. L'unité nationale, comment on a bâti ce pays, comment on l'a rebâti après les guerres de sécession et des rébellions. Et donc on doit tirer ces leçons-là pour aller de l'avant. 32 ans de pouvoir, les effets Mobutu continuent avec nous aujourd'hui. On ne peut pas s'en passer, mais surtout il faut tirer les leçons du bon côté de ce régime-là.
Cette recherche effectuée entre 2020 et 2023 a permis aux conférenciers d'analyser plusieurs centaines de documents déclassifiés des archives de la CIA, du Mossad et du Congrès américain. Ces conclusions seront mises à la disposition des dirigeants de la RDC et du public averti pour alimenter le débat démocratique dans le pays. Par ailleurs, le parti politique Mouvement des Congolais Nationalistes appelle la population congolaise à dialoguer autour des maux qui rongent le pays dont l'insécurité, la balkanisation, l'injustice sociale et autres. Le président de ce parti, Jonathan Kalumba, a lancé cet appel hier lors d'une conférence de presse tenue à Kinshasa. À cette occasion, il invite également les jeunes à se liguer contre les antivaleurs qui tirent la RDC vers le bas, à savoir la manipulation, l'instrumentalisation, la balkanisation, le tribalisme et la division. Jonathan Kalumba, au micro de Blaise Ndongala Mayanda.
Le mouvement de Congolais nationalistes lance un appel solennel au président de la République, garant de la nation, à la communauté nationale et internationale, ainsi que toute la classe politique congolaise, majorité et opposition, à privilégier l'issue d'un dialogue global et inclusif avec une large participation de la nouvelle génération. ultime démarche qui non seulement sauverait le pays du précipice de la balkanisation, mais aussi qui renforcerait la légitimité de toute démarche visant des réformes institutionnelles sérieuses pour le développement du Congo de Kimbangu. Nous sommes pleinement conscients de la menace gravissime qui guette l'avenir de notre génération et nous sommes prêts à nous battre pour la défense de cet avenir ainsi que celui de notre pays, afin de prouver au monde la force qu'incarne l'unité de notre génération pour le Congo.
Nord Kivu, une soixantaine de jeunes représentant des structures formelles et informelles de la ville de Beni participent depuis hier à une formation de renforcement des capacités des jeunes sur la résolution 2250 du Conseil de sécurité de l'ONU, organisée par le programme de désarmement, démobilisation, réinsertion communautaire et stabilisation PDDRCS. Cette initiative a pour objectif de sensibiliser les jeunes à l'importance de leur participation active dans le processus de paix. Marc Marofimbo.
Parmi ces jeunes se trouvent des membres des conseils communaux et urbains, des jeunes des groupes de pression et des mouvements citoyens actifs, ainsi que des anciens combattants. Les cadres de base et les bourgmestres des quatre communes de Beni sont également présents à cette session sur la résolution 2050 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Selon le chef d'antenne du PDDRCS dans la région de Beni, initiateur de cette formation, la paix durable ne peut se construire sans l'implication des jeunes. Omar Kavota, chef d'antenne du PDDRCS à Beni.
Il a été observé qu'à travers le monde, les jeunes sont à la fois victimes et acteurs dans les cadres des conflits armés. Et donc, chercher à avoir la paix durable sans les jeunes, ce serait mal passé. Parce que dans la plupart des violences armées, ce sont les jeunes qui sont recrutés, ce sont les jeunes qui sont utilisés, et parfois ce sont les jeunes qui sont victimes, soit enrôlés de force dans les groupes armés. Et on a trouvé que construire la paix nécessite l'implication des jeunes, parce que si les jeunes sont utilisés comme acteurs dans la construction de la paix, cette paix peut être durable. Donc, on est obligé d'impliquer les jeunes dans le processus de paix.
Cette formation de 2 jours se termine ce mercredi par une séance d'engagement des jeunes participant à l'œuvre pour la paix, ont précisé les organisateurs. Beni, Marc Marofimbo, Radio Okapi.
Retour en Ituri. 322 personnes déjà tuées depuis janvier par les rebelles des EDF dans la seule chefferie de Babila-Babombi, territoire de Mambasa. C'est à la limite avec le territoire de Beni au Nord Kivu. Ces statistiques ont été publiées mardi par l'ONG Convention pour le respect des droits de l'homme, CRDH. Cette ONG recommande l'extension des opérations conjointes FARDC-UPDF pour traquer les EDF qui auraient érigé leur bastion dans le groupement Bakaïku. Pour sa part, le porte-parole des opérations conjointes FARDC-UPDF, le colonel Mac Azoukai, s'est réservé de tout commentaire avant de recevoir un rapport à ce sujet, dit-il. Restons en Ituri. Le responsable provincial de la police nationale congolaise salue l'appui de la police de la MONUSCO dans le cadre du maintien de l'ordre public et la lutte contre la criminalité. Il a fait savoir hier, au sortir d'une rencontre avec la chef de la composante police de la MONUSCO en visite à Bunia, le général Ngoy Senge Loa cite entre autres les multiples dotations en matériel anti-émeute ainsi que des bâtiments pour améliorer la capacité opérationnelle de la police congolaise, mais aussi la mise en place de la stratégie opérationnelle intégrée qui permet à la police d'être plus professionnelle et de mener des patrouilles pour lutter contre le banditisme urbain. Le général Ngoy Senge Loa est au micro de Ezekiel Mousalia.
Il était vraiment de son devoir de venir nous rencontrer, d'échanger de la bonne collaboration qui existe entre nous de la police et la police MONUSCO. Nous sommes sur plusieurs programmes, comme vous le savez, la formation du personnel, le soutien en termes de matériel et même en termes des infrastructures. Cela témoigne justement de la bonne collaboration que nous bénéficions de la MONUSCO. Et tout cela, comme nous l'avons toujours dit, c'est pour le bien-être de la population. Mission pour laquelle ils sont à nos côtés et que nous remplissons avec beaucoup de professionnalisme depuis un certain temps, grâce justement à ces collaborations-là. Elle est au bon fixe. Pour parler de la police professionnelle, il faut une bonne formation, après un bon recrutement. Après cette formation-là, il faut que les policiers évoluent avec du matériel professionnel, dans des bonnes infrastructures. Avec la MONUSCO, nous avons bénéficié de renforcement des capacités, par exemple de la stratégie opérationnelle de lutte contre l'insécurité.
Célébration hier 19 novembre de la Journée internationale des toilettes, au Maniema, le ministre provincial de la Santé, Hygiène et Prévoyance sociale dresse un tableau sombre de l'état des lieux des toilettes dans cette province. Selon Dr Kingombe Chomba, seulement 5% de la population rurale et périurbaine utilise une latrine hygiénique. On écoute le ministre provincial de la Santé du Maniema au micro de Florence Kizalunga.
Chers parents, les toilettes sauvent des vies car elles empêchent la propagation des maladies causées par les excréments humains. En République démocratique du Congo, des millions d'habitants font leurs besoins dans les conditions sanitaires déplorables. La gestion des déchets en général et des excrétats en particulier est une catastrophe écologique réelle. Selon les rapports de Mix au Maniema, seulement 5% de la population rurale et périurbaine utilise une latrine hygiénique. Seulement 11% de la population urbaine utilise une latrine hygiénique. 38% de la population pratique la défécation à l'air libre. 26% de la population se lave les mains correctement avec du savon ou de la cendre après avoir été aux toilettes. Ceci étant, chers parents, à l'occasion de la célébration de la Journée mondiale des toilettes, nous vous invitons à se construire et à utiliser des latrines hygiéniques afin de vous protéger et protéger votre entourage des maladies liées au péril fécal.
Actualité internationale. L'Union européenne accorde un prêt de 96 millions de dollars au Cameroun pour moderniser ses infrastructures. C'est pour une période de 3 ans. Cette somme vise à revitaliser les infrastructures essentielles du pays et à renforcer son attractivité pour les investisseurs étrangers. Cette décision a été officialisée lors d'une rencontre à Yaoundé entre des ministres camerounais et un représentant de l'Union européenne.
L'invité.
Quand on parle de la situation de l'Est de la RDC, c'est clair qu'il y a une agression. Ce qui est encourageant, c'est qu'il y a des progrès par rapport aux discussions sur la situation sur le terrain. Propos de l'ambassadeur de l'Union européenne en RDC, en mission au Nord Kivu récemment, Nicolas Berlanga, notre invité, s'entretient avec Rosalie Zawadi.
Monsieur l'ambassadeur Nicolas Berlanga, bonjour.
Bonjour.
C'est votre 6e visite au Nord Kivu. D'abord, comment vous trouvez l'Est de la RDC que vous visitez régulièrement?
J'ai toujours des sentiments un peu contradictoires en étant à Goma. J'admire la beauté de la ville, l'activité qu'on voit dans les rues, la force de la jeunesse. Par exemple, ce week-end, ça a été avec le festival Amani. Et de l'autre côté, quand on survole la ville et on voit les camps de déplacés autour, quand on suit l'évolution du conflit, de l'agression, et on voit comment petit à petit il y a des territoires agressés, et quand on entend les mouvements des populations, l'envie de déplacer, de retourner chez eux. Voilà, donc c'est un sentiment contradictoire, mais je préfère rester dans le positif, rester dans cette volonté de communication, de dialogue, d'arriver à des accords qui puissent mettre fin au conflit.
Et justement, dans un panel dimanche, vous avez dit soutenir les processus de Luanda.
Oui, l'Union européenne est très engagée derrière les autorités angolaises pour les accompagner dans tous les efforts qu'ils font et qu'il faut vraiment apprécier en faveur de la paix à l'est de la RDC. On respecte beaucoup cette initiative qui déjà a été mandatée par l'Union africaine, que le président de l'Angola a pris avec énormément de détermination. Et donc l'Union européenne ne fait qu'être en contact avec les autorités angolaises pour pouvoir accompagner ce processus. Je vais vous donner un exemple. Jeudi après-midi, je suis allé visiter le siège du mécanisme de vérification renforcé ad hoc, qui est un mécanisme au service des médiateurs, au service du président Lourenço de l'Angola. Et justement, ma visite a cherché à passer ce message de soutien et d'accompagnement. C'est très important que le président angolais puisse avoir à sa disposition ces mécanismes pour pouvoir vraiment avoir des informations fiables et crédibles sur la situation sur le terrain. Cette transparence, cette mise à jour en continu de la situation ne fait que pouvoir mettre de la réalité, la vérité dans la table des négociations et arriver à un accord qui soit durable dans le temps.
La population veut voir les concrets, voir la paix vite revenir. Pensez-vous qu'elle a raison d'espérer?
Vous savez, toujours on dit que la dernière chose à perdre, c'est l'espoir. Samedi dernier, il était prévu une réunion ministérielle à Luanda. Il y a des contacts qui se font au niveau technique. La réunion ministérielle qui a été reportée va avoir lieu normalement à la fin de cette semaine. déjà le fait de que il y a des progrès par rapport aux discussions sur la situation sur le terrain, c'est déjà encourageant. Donc gardons cet espoir et espérons qu'effectivement bientôt le gouvernement congolais puisse annoncer aux populations déplacées, aux populations en détresse, des bonnes nouvelles qui puissent aboutir à une paix durable. Je pense que dans tous ces processus, ce qu'il faut garder à notre avis, c'est les principes. Les principes que les solutions militaires jamais aboutissent à une réponse qui puisse s'insérer dans la durée. À penser que la République démocratique du Congo a toujours gagné, parce que la vérité est dans son côté, a toujours gagné à travers des accords dialogués, des accords politiques. Des accords qui introduisent des concepts de justice aussi par rapport à ce qui s'est passé ces dernières années. Donc je plaide au nom de l'Union européenne en faveur de ces solutions négociées, en faveur de ces solutions de vérité, de sincérité, de justice. C'est ça qui va donner espoir, à notre avis, à la population. Pas seulement pour qu'ils rentrent 6 mois après on est dans la situation, sinon vraiment pour avoir une paix durable. Écoutez, en Europe, on a eu l'expérience des nations qui se sont battues pendant des siècles, de la haine qui s'est installée parmi les peuples et que grâce au dialogue, grâce à la connaissance mutuelle, on a su surmonter pour créer ces beaux projets qui est maintenant l'Union européenne, un projet de paix où il n'existait pas de frontières internes, où la population, la jeunesse surtout, s'échangent, vivent ensemble et créent un projet d'avenir. Donc on croit beaucoup dans ce modèle et on essaye aussi de les passer aux autorités. Mais en réitérant qu'ici, quand on parle de la situation à l'est du Congo, c'est clair qu'il y a une agression et c'est clair dans quel camp elle est la justice.
Monsieur Nicolas Berlanga, ambassadeur de l'Union européenne à RDC, merci.
Merci.
Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi.